Vous êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée « Chemin de vérité ». Vous êtes invité à suivre chaque semaine des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. Le sujet de ce jour est le troisième dans une série sur l'Église, « Un royaume éternel ». Savez-vous que Dieu avait un plan pour notre salut avant même de créer le monde? Voyant d'avance que les hommes s'éloigneraient de lui par leurs péchés, Dieu a conçu un plan pour nous réconcilier avec lui. Il fallait que ce plan tienne compte de la liberté de choix qu'il nous a donnée, car nous ne sommes pas de robots. Son plan devait respecter sa propre justice parfaite en tant que juge de toute la terre. Il devait tenir compte de tous les besoins spirituels de l'homme. L'exécution de ce plan que Dieu a conçu dans l'éternité ne serait pas facile, car la seule manière de satisfaire aux exigences de la justice, tout en nous offrant le pardon, était de fournir un sacrifice valable, une victime innocente qui pourrait prendre la place des coupables et payer de sa vie le prix de leur crime. Voilà le sens des paroles de l'apôtre en 1 Pierre chapitre 1, versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La mort de Christ n'était pas un accident. Elle faisait bien partie d'un dessein éternel. Dieu a accepté de payer un prix impensable afin de nous sauver, vous et moi. Mais ce plan merveilleux ne comportait pas seulement la mort de Jésus sur la croix. L'Église aussi faisait partie du plan de Dieu. Selon Éphésiens 3, versets 9 à 11, Dieu, qui est le Créateur de toutes choses, a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, par le moyen de l'Église, les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse de Dieu sous tous ses aspects. Dieu a agi ainsi conformément à son intention éternelle qu'il a réalisée par Jésus-Christ notre Seigneur. Avant de créer Adam et Ève, Dieu avait déjà décidé qu'il y aurait l'Église et il savait quel rôle l'Église devait jouer dans son plan. Certaines personnes, qui apparemment ignorent le passage que nous venons de lire, avance l'idée que l'Église était une sorte de plan B, une solution qui a été nécessaire uniquement parce que les Juifs incrédules auraient fait échouer le vrai plan. Ces personnes pensent que Dieu s'attendait à ce que les Juifs acceptent Jésus comme roi pour qu'il se mette à régner sur le monde entier. Elles ne voient aucun rapport entre le royaume qui devait venir et l'Église qui est venue. En réalité, le royaume et l'Église sont inséparables. Les termes sont même, dans certains passages bibliques, interchangeables. Considérez ces points. Avant Actes chapitre 2, l'Église et le royaume sont tous deux présentés comme des réalités futures. Jésus dit en Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église ». Il dit en Matthieu 4, verset 17, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Après le jour de Pentecôte, décrit en acte 2, l'Église et le royaume sont présentés comme étant maintenant venus, et les disciples en faisaient partie. Acte 2, verset 47 dit que le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et Paul dit en 1 Corinthiens 15, verset 9, « Je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu ». Évidemment, l'Église existait déjà quand ces deux passages ont été écrits. Mais le royaume existait également après Acte 2. Apocalypse 1, verset 6 dit que Jésus a fait de nous un royaume. Et au verset 9, l'auteur dit, Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Vous voyez que Jésus avait déjà fait de ses chrétiens un royaume, et Jean avait déjà part à ce royaume. Notez aussi que l'Église et le royaume sont tous deux composés de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. En Actes 20, verset 28, Paul dit aux anciens de l'Église d'Éphèse de paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. En Apocalypse 5, verset 9 et 10, cette louange est adressée à Jésus. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Jésus s'est acquis l'Église par son sang, et c'est à ce même prix qu'il a racheté ceux dont il a fait un royaume. Le même prix a été payé pour le rachat des membres de l'Église et de ceux qui composent le royaume. En Matthieu 16, versets 18 et 19, Jésus parle de l'Église et sans avoir l'air de changer de sujet, il parle du royaume. Il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié dans les cieux. » Pourquoi Jésus passe-t-il directement de son intention de bâtir son Église à son intention de donner à Pierre les clés du royaume? C'est parce que ces deux termes s'appliquent à la même institution divine. Enfin, Paul adresse son épître aux Colossiens, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, c'est-à-dire à l'Église dans cette ville. Puis il dit au chapitre 1, verset 13 que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ceux qui étaient dans l'Église étaient aussi dans le royaume. L'Église est donc la manifestation du royaume de Dieu sur terre. Elle est composée des citoyens de ce royaume. Elle fut établie selon le plan de Dieu et au moment que Dieu avait indiqué d'avance. En Daniel chapitre 2, nous avons le rêve de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Dans ce rêve, le roi a vu une statue composée de plusieurs parties. La tête était d'or pur, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, les jambes de fer, les pieds en partie de fer et en partie d'argile. Pendant que le roi regardait, une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Le vent les emporta, mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel a expliqué au roi que la statue représentait différents royaumes qui devaient se succéder dans l'histoire. L'empire babylonien, le royaume des Mèdes et des Perses, l'empire des Grecs créé par Alexandre le Grand et finalement l'empire romain. Arrivé à ce point dans son explication, Daniel dit au verset 44, « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. » Selon cette prophétie, ce serait pendant la domination de l'Empire romain, dans le temps de ces rois, que le royaume de Dieu serait établi. Cela s'accorde parfaitement avec la proclamation de Jean-Baptiste et de Jésus au début de leur ministère respectif que le royaume était proche. Étant donné que l'Empire romain n'est plus, nous pouvons dire que si le royaume de Dieu n'a pas encore été établi, c'est que la parole de Dieu en Daniel aurait échoué. Elle n'aurait pas été accomplie et elle ne pourrait plus s'accomplir. En plus, Jean-Baptiste et Jésus-Christ se seraient trompés. Si par contre le royaume s'identifie comme l'Église du Seigneur, il est évident que le royaume a bien été établi pendant le temps de l'Empire romain, plus précisément au jour de Pentecôte en Acte 2. En plus, les prophéties de Daniel, de Jean et de Jésus s'avèrent tout à fait justes. L'Église n'est donc pas une création de l'homme, elle est de Dieu. Elle fait partie d'un plan que Dieu a conçu avant la fondation du monde. Et en tant que royaume qui subsistera éternellement, elle survivra à la fin de ce monde physique que nous voyons de nos yeux. Dans un sens, le règne de Christ est universel. Il dit en Matthieu 28, verset 18, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Étant monté au ciel, Jésus s'est assis à la droite de Dieu pour exercer son pouvoir royal. Les rois d'autrefois, en effet, s'asseyaient sur leur trône pour juger, pour faire des proclamations, pour recevoir des ambassadeurs, bref, pour exercer leur règne. Cela s'accorde avec ce que nous trouvons dans des passages tels qu'Éphésiens 1, versets 20 à 22, où Paul nous dit que Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus règne sur le monde entier, que les hommes le reconnaissent ou pas. C'est lui qui est le prince des rois de la terre. Apocalypse 1, verset 5. Mais si tel est le cas, tous les hommes ne seraient-ils pas citoyens du royaume? Tous ne seraient-ils pas d'office dans le royaume du Seigneur? Non, pas du tout. Pensez à l'exemple de l'Empire romain. Par des conquêtes militaires, par des traités et des tactiques politiques, les Romains avaient pu étendre leur domination sur un territoire incroyablement vaste, depuis l'Angleterre, l'Espagne et le Maroc, jusqu'à l'Égypte, la Syrie et la Turquie actuelle. L'empereur romain régnait sur plus de 100 millions d'âmes. Mais de ce nombre, un pourcentage très limité était citoyen. Ceux-ci jouissaient de privilèges et de prestiges. Ils avaient des droits précieux et bénéficiaient pleinement du pouvoir de leur roi. Et bien sûr, ils se soumettaient volontiers à son autorité. Grâce à lui, ils étaient parmi les conquérants et non pas les peuples conquis. Au sein de l'Empire romain, il y avait donc des Romains, des citoyens, et puis il y avait les autres. Quand Jésus parle d'entrer dans le royaume de Dieu, quand la Bible parle d'être ajouté à l'Église, il s'agit de ceux qui se soumettent volontairement à l'autorité royale de Jésus-Christ et qui bénéficient donc des avantages spirituels de son règne. Tout le monde est sous l'autorité de Jésus, mais il faut naître de nouveau par l'obéissance à l'Évangile pour être citoyen de son royaume. Jésus dit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Jean 3, verset 5. L'Église de notre Seigneur est extrêmement importante, voire essentielle à notre salut. Dieu l'a prévue depuis l'éternité, et toutes les merveilleuses bénédictions spirituelles que Jésus est venu nous apporter sont réservées pour ceux qui s'y trouvent, ceux dont la cité est dans les cieux. Continuez donc de suivre avec nous cette série d'études très importantes sur l'Église.
Adorons les rois, les